Père Nicolas Sautreau, bonsoir, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir Jérôme, merci de m'accueillir. Eh bien, nous sommes le lundi 21 septembre, mais 1851, si vous voulez bien. Toujours à Londres, ou dans la proche banlieue de Londres, et nous sommes dans la chapelle de l'oratoire, des pères de l'oratoire de Saint-Philippe Néri, et le père Frédéric va bientôt commencer à nous parler, parce que c'est sa mission. Il a préparé, et il introduit son propos en nous faisant un petit résumé. Déjà, on fait un résumé des épisodes précédents. Il nous rappelle que le but qu'il s'est proposé, qu'il nous propose, c'est de faire prospérer les intérêts de Jésus. Et le chapitre suivant, il nous résume un autre épisode, et après avoir eu cette méditation sur les intérêts de Jésus, il a voulu nous démontrer que pour obtenir ce résultat, le meilleur moyen, c'est la prière. Alors, il choisit ces mots, le meilleur moyen, pas l'unique, mais le meilleur. Donc, nous savons bien qu'il y a tout le mystère du renoncement, il y a le mystère de la charité fraternelle, il y a le mystère de la liturgie, de la prière commune, alors que là, ça va plutôt être la prière personnelle. Le père Frédéric commence en disant « Mais qu'est-ce que la prière ? Qu'est-ce que le mystère de la prière ?» On commence par une question, c'est toujours très très habile. Ça permet de réveiller un peu l'auditoire, même si certainement l'auditoire revient du travail. On est aux alentours de 19h. Il s'est un peu dépêché pour arriver dans cette chapelle. Mais il faut nous sortir de nos occupations précédentes, ou bien de nos lectures précédentes, ou de ce que nous faisions juste avant. Et il y a cette prière qui arrive. Qu'est-ce que la prière ? Quelqu'un comme Saint Alphonse de Liguori, qui vit un siècle avant le père Faber, dit qu'on ne prêchera jamais trop sur la prière, sur ce sujet de la prière. Qu'est-ce que la prière ? Il nous est permis de faire une telle question. Telle est la responsabilité que suppose la prière, si tels sont les miracles qu'elle a compris, si enfin il est vrai que la loi de Dieu nous demande de prier pour les autres aussi bien que pour nous-mêmes. En quelle proportion prier pour les autres et prier pour soi-même ? On a bien l'impression que l'ensemble des spirituels nous disent qu'il faut beaucoup, beaucoup prier pour nous-mêmes, voilà, qu'on peut prier pour les autres d'une façon un peu générale, en disant « Seigneur, je te présente toutes les intentions qu'il pourrait y avoir dans mon cœur ou tous ceux qui m'ont demandé de prier pour eux ». Et puis après, il faut prendre le temps de prier pour nous-mêmes, de demander pour nous-mêmes la grâce et les bénédictions de Dieu, et la conversion, et l'amour de la pénitence, et l'amour des souffrances, etc., etc. Alors, il y a divers moyens de se former une bonne idée de la prière. D'abord, nous devons considérer qui nous sommes, nous qui prions. Alors, qui suis-je, moi, qui vais me mettre à prier dans quelques minutes ? Qui suis-je ? Il n'y a rien qui a une origine plus humble que moi-même. J'ai été créé de rien. Et quand je suis venu au monde, mon âme portait l'empreinte du péché. Mon âme gémissait sous le poids de la condamnation de Dieu, la condamnation dont nous parle le livre de la Genèse, cette condamnation du péché. Et rien, en dehors de, bien sûr, la venue du Seigneur Jésus, la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus, rien normalement n'aurait pu me faire échapper à une destinée bien triste. Et à cette nature marquée par le péché originel, j'ai ajouté chaque jour un peu plus de choses mauvaises. J'ai ajouté un peu plus de péché. Encore une fois, ce n'est pas une vision pessimiste, c'est une vision réaliste. On est bien d'accord, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre le saint réalisme et le pessimisme un peu morbide et mortifère, mais des grands écrivains ou des grands saints ont justement été gardés par le Saint-Esprit ajouter en plus mes propres péchés. Il est difficile d'exprimer à quel point il peut y avoir des choses mauvaises en moi, et il n'y a pas non plus beaucoup de moyens pour me dire à moi-même à quel point je suis impuissant quand il s'agit de faire le bien, mais vraiment le bien, sans aucune trace de mal. Un bien qui soit sans mélange. Tout au commencement est petit en moi. Ah oui, face à Dieu, façon de s'exprimer a tout à fait du sens. Tout est petit en moi et je l'ai rendu infiniment plus petit encore. Oui, il y avait les ressources que Dieu avait mises en moi, mais par mes péchés, je me suis rapetissé. Je suis devenu infime, voire insignifiant, face à Dieu, face à l'infinie beauté de Dieu. D'après le père Faber, donc je suis toujours en train de l'écouter prêcher, mais avec une distance critique, comme on doit le faire quand on écoute un prédicateur, quand on écoute une homélie pendant la messe, évidemment, on doit garder notre esprit sainement critique et nous dire que même si le Saint-Esprit quand même a quelques chances de passer par le prédicateur, tout ne va pas être directement donné par le Saint-Esprit. Donc je reste avec ma sainte liberté des enfants de Dieu et je reconnais là que oui, ce qu'il dit est fort, mais je dois quand même pour autant donner quelques bémols, mettre quelques bémols à ce qu'il est en train d'exprimer. Donc, difficile de nous concevoir pire que nous sommes, dit-il, au point qu'il est nécessaire pour nous d'être remplis de patience et de tolérance à l'égard de nous-mêmes, autant qu'à l'égard des autres. Voilà. Donc c'est un des grands principes, tolérance à l'égard de moi-même. Tolérance zéro pour le péché, mais tolérance à l'égard de moi-même en tant que créature de Dieu et qu'enfant de Dieu. Alors une fois que j'ai fait ce tour d'horizon sur mon pauvre moi, puisque selon la grande intuition qui a souvent été un peu mal comprise du Saint John Newman, c'est la prière, c'est une affaire à deux, mon Créateur et moi-même. La description, si on veut, physique de la prière, c'est ça. C'est Dieu, et puis en face, moi, en train de m'adresser à Dieu ou de recevoir la grâce de Dieu. Donc une fois qu'on a fait le tour de notre petit moi, eh bien il faut s'occuper de celui à qui s'adressent nos prières. Nous nous tournons vers Dieu, grand et adorable. Dieu dont rien ne pourrait égaler les perfections infinies. La seule pensée de Dieu doit nous plonger dans la stupeur. Alors c'est peut-être une grâce, si vous vous souvenez, qui ressemble un peu à celle qu'avait reçue le bienheureux Colomba Marmion, aux alentours de ses 18-19 ans, cette espèce de révélation de la grandeur de Dieu, de la transcendance de Dieu. Et cette fameuse stupeur, lorsque guidé par la parole de Dieu et éclairé par le Saint-Esprit, il y a un moment où vraiment nous sommes saisis par la profondeur du mystère de Dieu et par la splendeur de l'être de Dieu, de l'être même de Dieu. Dieu est en trois personnes vivantes, c'est comme ça qu'il s'exprime. Dieu est en trois personnes vivantes. Nous existons, nous marchons, nous respirons en lui. Il pourrait faire de nous tout ce qui lui plairait. Il n'a d'autre engagement envers nous que ceux que dans sa miséricorde infinie, il a bien voulu contracter. Il sait tout sans que nous ne lui disions ou demandions rien. Et pourtant, c'est lui que nous prions. Et ce serait sans fin. Cette description de notre grand Dieu que nous prions en tant que Trinité, mais sans fin aussi le mystère du Seigneur Jésus que nous prions en tant que notre Rédempteur et que notre Sauveur. abréger un petit peu. En troisième lieu, du coup, il faut que nous songions où nous prions. Alors ça paraît très terre-à-terre, de manière très anglo-saxon, très pragmatique comme approche, mais finalement c'est vraiment intéressant. Cette idée de l'endroit où nous nous mettons pour prier. Que ce soit dans un lieu consacré ou non, c'est en Dieu lui-même. Le lieu où nous prions Dieu, c'est Dieu. Et c'est vraiment le sens, je me permets de vous rappeler le très très grand intérêt de Faber pour la liturgie catholique, et pour les secrets de la liturgie catholique, pour les manières de la comprendre vraiment de l'intérieur, c'est le sens du « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » qui commence la messe et qui commence d'autres prières. Donc c'est vraiment dans la personne du Père, dans la personne du Fils et dans la personne du Saint-Esprit. Grâce au don du baptême, je me laisse prendre par Dieu pour être plongé en lui, pour être mis en lui-même, et je suis dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, et c'est depuis cet endroit-là que je vais prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, nous sommes en plein mystère, d'accord ? Nous sommes bien au-delà du raisonnement purement humain, mais c'est la vérité. Le lieu où nous prions, c'est Dieu lui-même. Nous sommes au milieu de Dieu, comme le poisson est au sein des eaux de la mer. L'immensité de Dieu est notre temple. Partout, nos lèvres rencontrent son oreille. Partout, nos lèvres touchent ses oreilles. Nous ne sentons pas l'oreille de Dieu, et si nous la sentions vraiment, nous pourrions en mourir. Cette oreille de Dieu écoute toujours, les pensées retentissent auprès d'elle aussi fort que les paroles, les souffrances, elles aussi parlent et elles parlent plus fort encore. Jamais l'oreille de Dieu ne s'éloigne de nous, jusqu'au milieu de notre sommeil et de nos rêves, nous y laissons tomber un soupir. Oui, Dieu comble son bien-aimé quand il dort, eh bien, la conclusion qu'en tire le père Faber, c'est que Dieu nous comble quand nous dormons, parce que même quand nous dormons, il y a quelque chose qui peut s'élever de nous et qui peut parler à Dieu et qui peut crier vers Dieu pour demander sa grâce et son amour. C'est un des aspects de la prière du soir juste avant de s'endormir, de la prière liturgique décomplie, c'est d'implorer le Seigneur pour que pendant que nous dormons, il y ait comme une espèce de prolongation de la prière, pour que tout ce que nous avons demandé au Seigneur pendant la journée, pendant la nuit, puissions d'une manière ou d'une autre continuer à le demander. Où nous prions ? Donc, il y a la réponse basique, oratoire, pas oratoire, chapelle, pas chapelle, dans la nature, prier au milieu des frères et des sœurs, et il y a la réponse que veut nous apporter le père Faber, c'est en Dieu, comme, encore une fois, le poisson dans les eaux de la mer. Nous plongeons en Dieu pour pouvoir prier Dieu. Il faut ensuite nous demander d'où vient la valeur de nos prières. Ce ne sont par elles-mêmes que des paroles flottantes et des mots qui s'enfuient, ou des pensées qui s'enfuient, ou par elles-mêmes un silence qui va devoir être fécondé par Dieu. Il n'y a rien en nous qui nous donnerait le droit d'être écouté, si ce n'est peut-être l'excès même de notre indignité, l'extrémité de notre misère. Peut-être que ce serait notre droit à être écouté de Dieu. Autrement, pourquoi nos prières auraient-elles plus de puissance à l'oreille de Dieu que le rugissement du lion, que le chant plaintif de l'oiseau ou le cri de l'animal blessé qui s'enfuit à l'approche du chasseur? revient à cette caractéristique de la piété, de la spiritualité de Fébère, le mystère de l'incarnation du Verbe, le mystère du 25 mars, y tient une place absolument immense. Le mystère de Noël, bien sûr, du coup. D'où vient que notre prière a une valeur? Cela vient du fait que Dieu s'est fait homme, que le Verbe s'est fait chair, que le Verbe s'est prosterné sur la montagne au milieu des souffrances et qu'il a passé des nuits en prière. Et que le Verbe nous unit à lui dans un mélange divin. Le Fils de Dieu fait de notre cause la sienne, de ses intérêts les nôtres, et nous ne formons pour ainsi dire plus qu'un seul avec lui. C'est vraiment, encore une fois, le thème de l'incarnation rédemptrice, et ce thème qui nous vient beaucoup des anciens pères de l'Église des tout premiers siècles, ceux qui priaient en grec, parlaient en grec et écrivaient en grec, et qui ont vraiment voulu méditer le fait que, en s'incarnant dans la nature humaine, Jésus, le Verbe s'est uni d'une certaine manière à toute personne humaine. Donc, par cet instant même de l'incarnation, c'est toute prière qui devient capable d'être une prière dans le Christ, dans le Fils. Encore une fois, la liturgie vient à notre secours et nous remet dans notre âme les fabuleuses paroles par lui, avec lui et en lui. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus. En vertu d'une communion mystérieuse, le mérite des prières de Jésus se mêle à nos prières. L'abondance des mérites des prières de Jésus enrichit la pauvreté de nos prières. Et l'infinité des prières de Jésus vient relever et transformer notre misère. De sorte que, lorsque nous prions, ce n'est pas nous qui prions, mais Jésus qui prie en nous. Le Père Fébère le citera dans quelques lignes. Évidemment, il n'a pas oublié saint Paul. Lorsque nous prions, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. C'est toujours la même grande merveille que l'Esprit Saint et Jésus, ensemble, prie en nous et nous tourne vers le Père, de telle sorte que notre prière, enfin, devient filiale. Et si la prière peut devenir une vraie prière, c'est parce qu'il y a cette présence en nous de Jésus et du Saint-Esprit. Et parce que, comme le Père Fébère vient de nous le dire, parce que nous sommes déjà en Dieu. Nous sommes déjà plongés en Dieu et nous y sommes plongés d'une manière parfaite et très insondable par la grâce du baptême. Plongés dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Nous parlons à l'oreille de Dieu. Alors peut-être que ça vous a étonné, cette histoire de l'oreille de Dieu. Ça fait partie disons, des astuces de la prédication, que d'aller puiser dans les psaumes, d'aller puiser dans tout l'Ancien Testament, un thème spirituel comme celui-là, cette réalité que Dieu nous écoute, qui se transforme en une image qu'on essaye de débarrasser au maximum de sa grossièreté et de son côté beaucoup trop humain, l'image de l'oreille de Dieu. Et une fois qu'on a fait cet effort, garder la saine distance par rapport à une image aussi matérielle, il y a une très grande fécondité. Donc cette oreille de Dieu. Nous parlons à l'oreille de Dieu. Ce n'est pas notre voix, c'est la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, et puis, en cohérence avec les quatre grands intérêts de Jésus, le Père Fébère ajoute la voix de la Sainte Mère de Dieu, de la Vierge Marie en nous aussi. C'est cette voix que Dieu daigne entendre. connaître, ceux qui en sont familiers, un emprunt plein de respect à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort pour nous parler de cette voix de la Vierge Marie qui, en nous, parle à Dieu, et que Dieu, dans une espèce de sainte supercherie, que Dieu fait semblant de reconnaître comme étant la nôtre. C'est la Vierge Marie qui parle, mais Dieu veut faire semblant de considérer que c'est notre prière à nous. Alors, l'emprunt respectueux à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est l'histoire d'Isaac et de Jacob. L'Éternel veut imiter Isaac, dont l'âge a éteint la vue. La Bible nous dit qu'à la fin, Isaac perd la vue. Son plus jeune fils vient se mettre à genoux devant lui pour demander sa bénédiction, car il lui a été permis de prendre la place de son frère aîné. Alors, Isaac dit, « La voix est certainement la voix de Jacob, et ce n'est pas lui que je veux bénir, mais les mains sont les mains d'Ésaü, endurcies par les travaux qu'a coûté la rédemption du monde. » Et Dieu dit avec Isaac, « Viens près de moi et embrasse-moi, ô mon fils. » Et aussitôt qu'il a senti les parfums qui inondent ses vêtements, car il a revêtu la tunique du Christ, il le bénit en disant, « Voici que mon fils répand une odeur semblable à celle d'un champ fertile. » Et alors, il le remplit de bénédictions. Voilà, c'est une invention de la miséricorde que d'accepter d'être un peu trompé et de dire, bien sûr, je reconnais que c'est la voix de Jésus, mais je fais comme si c'était mon fils ou ma fille bien-aimée, mon fils ou ma fille adoptive, par la grâce du baptême, qui est en train de me parler. Et du coup, les deux se mélangent, et grâce à cette voix, eh bien, il y a la bénédiction de Dieu qui descend sur nous, parce que Jésus parle en nous. Mais là ne se bornent pas les inventions de la miséricorde, les inventions de l'amour du Père éternel. Parce que nous pouvons aussi rechercher avec qui nous prions. Alors là, il y a une distinction un petit peu raffinée de notre Père Frédéric, puisque il va nous dire qu'en fait, c'est Jésus qui prie en nous, et nous prions en lui, et que nous prions avec le Saint-Esprit. Mais la subtilité peut être un petit peu rabotée en disant, voilà, c'est le Fils et le Saint-Esprit qui prient tous les deux. Donc, pour lui, c'est prier avec. Nous ne prions jamais seuls. Nous pouvons en être sûrs toutes les fois que nous faisons une bonne prière. Alors, c'est toujours compliqué. Une bonne prière, c'est la prière qui plaît à Dieu. La bonne prière, ce n'est pas celle qui nous fait plaisir, qui nous rassasie de consolation. C'est la prière selon la volonté de Dieu. Un être habite en nous qui est égal à Dieu le Père, éternel comme lui, et qui procède du Père et du Fils. C'est lui qui crée les mots dans notre cœur. C'est lui qui met de la douceur dans notre voix quand nous écrions « Abba, Père ». C'est lui qui est notre accès auprès du Père et qui met la force au cœur de l'homme. Il nous fait dire en nous-mêmes les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Il nous invite à chanter le Seigneur dans nos cœurs, à rendre grâce de toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'Esprit dans lequel nous prions dans tous les temps, par toute prière et toute supplication. Il est l'Esprit qui vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous avec des gémissements indicibles. Et celui qui cherche les cœurs sait ce que désire l'Esprit Saint. Évidemment, une citation un peu développée, un peu adaptée de saint Paul dans la lettre aux Romains. Or, s'il en est ainsi, le mystère de la prière ne devient-il pas de plus en plus profond à nos yeux? Parce que finalement, il rejoint quelque chose du mystère de Dieu, dialogue éternel entre les trois personnes divines. Nous avons le bonheur de pouvoir laisser le Seigneur Jésus prier en nous et laisser l'Esprit-Saint prier en nous. Nous associer à cette prière avec cette certitude de la bienveillance du Père sur nous. C'est cela la valeur de notre prière. Alors nous allons redescendre de ces hauteurs. Encore le prédicateur sait qu'il ne peut pas toujours être au maximum du maximum de sa puissance de prédication et qu'il faut de temps en temps faire un petit peu une redescente vers des altitudes un petit peu moins difficiles à respirer, parce que nous sommes faibles, hein, sinon nous serions extrêmement heureux d'être emmenés à de telles altitudes. Et il nous parle de la facilité de la prière. Alors, j'avais osé parler un peu de la traduction des easy ways, voilà les voies faciles de l'amour divin. Donc c'est à nouveau ce mot-là que nous rencontrons avec toute cette connotation aussi de douceur, de gentillesse, cette connotation de calme, cette connotation de tranquillité. Voilà ce qu'est cette facilité de la prière. Mais là, le mot va retrouver un peu le sens que nous donnons habituellement. La prière est une voie facile de l'amour de Dieu. Toute heure, toute position, tout lieu sont également bons. Alors, je ne sais pas s'il faut pousser ça jusqu'au bout du bout des possibilités d'une telle phrase, en parlant de posture, de position, pas forcément chercher à être le plus original possible dans nos attitudes corporelles pendant la prière. On peut être assez classique et s'enrichir de la manière de faire qui a été acquise et développée au cours des siècles et nous dire que s'il y a telle ou telle attitude qui a été adoptée pour prier, c'est qu'il doit y avoir une raison par rapport à qui nous sommes, par rapport à notre humanité. Et tous les lieux sont bons, oui, en théorie, mais évidemment il y a des lieux qui sont plus ou moins favorables. Mais il n'y a pas de circonstances qui puissent nous empêcher de confesser avec respect la présence de Dieu. Alors là, nous avons une tentative de définition de la prière. Une définition à laquelle on ne s'attend peut-être pas. Confesser avec respect la présence de Dieu. Alors, si on nous demande, mais qu'est-ce que prier ? Eh bien, nous pouvons tenter une telle définition. Confesser avec respect la présence de Dieu. Donc, avec respect, ça rejoint évidemment cette espèce d'intuition surnaturelle de la grandeur pleine de miséricorde, la grandeur pleine de tendresse du Père du Ciel, mais néanmoins la grandeur. C'est comme cela que nous confessons cette présence de Dieu. Et on peut ainsi, c'est vrai, sans aucune parole, confesser avec respect la présence de Dieu pendant des minutes et des minutes, voire pendant des heures. Et cela, aucune circonstance de la vie ne peut nous empêcher de le faire. Même dans la souffrance, même dans la grande impuissance, même dans le désarroi, même dans une forme de désespoir, bien sûr dans la persécution, bien sûr dans les tentations, rien ne peut empêcher de confesser avec respect la présence de Dieu. Dieu était là et je ne le savais pas. Mon Seigneur est mon Dieu, finalement. Le talent n'est pas nécessaire. Que cette affirmation est forte. Le talent de la prière n'est pas nécessaire. C'est cette manière de laisser la présence de Dieu venir jusqu'à nous qui est nécessaire. C'est cet accueil de la présence du Seigneur et de l'amour du Seigneur. L'éloquence est un hors d'œuvre. À la limite, oui, l'éloquence peut peut-être aider dans les premières secondes ou les premières minutes de la prière, mais ce n'est qu'un hors d'œuvre qu'on va abandonner en fait le plus vite possible pour passer au plat de résistance, au plat principal, et se laisser nourrir par Dieu. On comprend que ceux qui c'est pas avec deux ou trois radis ou je ne sais pas, ou un petit peu de soupe clairette présentée en hors-d'œuvre qu'on va arriver à nourrir l'animal. Il faut un plat de résistance, il faut quelque chose qui soit consistant et qui donne de la force. L'éloquence est un hors-d'œuvre. Et la dignité n'est pas une recommandation. Donc, le fait d'être rempli d'honneur ou rempli de pouvoir, bien rempli de savoir, cela ne nous recommande pas auprès de Dieu. Il faudrait vraiment être particulièrement sot pour arriver à la prière devant Dieu en essayant de faire valoir quelques titres que ce soit. Puisque c'est celui d'être habité par Jésus et par l'Esprit Saint qui est le seul titre qui puisse nous recommander devant la face du Père. Nos besoins, c'est cela, notre éloquence, et notre recommandation est dans notre misère. On reprend l'idée qu'il avait adoptée tout au début, que ce qui nous recommande, au moins au début de la prière, nous sommes tellement pauvres et tellement démunis. La pensée est aussi rapide que l'éclair, elle peut aussi rapidement multiplier des prières. Les actes sont des prières, la souffrance est une prière. Il n'y a pas de cérémonie à mettre en œuvre, il n'y a pas d'étiquette à observer dans la prière. Voici en un mot la définition de la prière. Un enfant au genou de son père. La prière est évidemment filiale, essentiellement filiale et intensément filiale. Un enfant au genou de son père, en train de balbutier quelques paroles entrecoupées par la ferveur et faisant lire sur son visage recueilli la prière que sa bouche peut à peine faire entendre. Voilà, voilà le choix finalement profondément évangélique que fait le père Faber pour essayer de ramasser dans une sorte de définition ce qu'il a voulu exprimer auparavant, un enfant au genou de son père en train simplement de balbutier et surtout en train de laisser Dieu lire son visage. La prière comme face à face, mais ici un face à face qui est celui du père avec son enfant. Évidemment, nous ne sommes pas à égalité. Nous ne sommes pas dans un face à face entre égaux avec le Seigneur notre Père. Maintenant, après avoir parlé de ces conditions de la prière, de cette facilité de la prière, et puis l'image de l'enfant qui donne simplement son visage à regarder à son père, est très très éloquente, et elle est volontairement inversée. C'est-à-dire que la contemplation, ainsi, n'est pas d'abord le fait de l'enfant qui regarde son père et qui scrute le visage du père pour le connaître, qui cherche à découvrir le mystère du père, mais l'enfant qui offre son visage à regarder. Comme si Dieu, dans son infinie délicatesse, dans son respect à notre égard, comme si Dieu ne nous regardait pas autant quand nous ne prions pas que quand nous prions. Voilà. Lorsque nous nous offrons à Dieu dans la prière, lorsque nous nous dévoilons à Dieu, alors Dieu, d'une certaine manière, s'autorise à regarder longuement notre visage, à y recueillir tout ce que peut exprimer notre face. C'est vraiment un désir ici d'inverser l'image pour que nous comprenions quelque chose du mystère de la tendresse et de la délicatesse du Père. Dans l'adoration eucharistique, il y a aussi cette dimension de chercher à regarder l'hostie, à regarder le mystère de la présence eucharistique du Seigneur Jésus. Et nous savons bien que il y a aussi cette volonté que Jésus Eucharistie nous regarde depuis soir, que le Seigneur nous regarde, et parce que nous sommes venus à l'adoration, d'une certaine manière, encore une fois, nous autorisons le Seigneur Jésus à nous regarder intensément, à nous scruter intensément, à vraiment chercher à évaluer ce que nous sommes en train de lui présenter nous-mêmes et à évaluer aussi l'intensité de notre amour, l'intensité de notre ouverture à sa propre présence. Voilà, donc l'étape suivante, c'est, après cette définition de la prière, c'est l'efficacité de la prière. Considérez l'efficacité de la prière. Il suffit que nous demandions des choses justes, que nous nous mettions à prier souvent et avec persévérance, avec la certitude et l'intention de recevoir ces choses justes. Il me semble bien que la difficulté est toujours de ne pas se tromper dans notre évaluation de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Oui. Certitude de recevoir toutes ces choses justes, non en raison de la faiblesse de nos désirs, mais en raison des trésors de la sagesse et de la générosité de Dieu. La sagesse de Dieu, Dieu sait ce qui est bon pour moi, et la bonté de Dieu qui se fait générosité. Qui se fait générosité paternelle et maternelle à la fois. Dieu daigne se mettre à notre disposition. C'est une variation sur le thème « Jésus nous appartient ».« Jésus nous appartient » va se traduire par « Dieu daigne se mettre à notre disposition ». Il nous accorde sur lui une influence illimitée, non point pour un jour ou deux, pas seulement au jour de fête ou dans les grandes occasions, mais à chaque instant de notre vie tout entière. Puisque aucune circonstance ne peut nous empêcher de profiter de Dieu qui se met à notre disposition. Donc, dans notre vie tout entière, à chaque instant. Dieu nous rappelle que nos prières, il veut qu'elles soient efficaces. Dieu veut que nous puissions avoir le bonheur de recevoir une réponse favorable à nos demandes. Dieu ne permet pas de prier seulement pour nous-mêmes, c'est ce dont a parlé longuement le Père Faber, mais de prier aussi pour les autres. Je crois que c'est là un début de réponse à une question qu'on entend très très souvent sur est-ce qu'il est légitime de prier pour soi-même. Là, la réponse est très forte parce que, encore une fois, on est presque dans une réponse inversée. Non seulement on a le droit de prier pour nous-mêmes, mais on a aussi le droit de prier pour les autres. Donc c'est comme si c'était une espèce d'exception. Donc on tend pour nous-mêmes, et puis de temps en temps, on prie pour les autres. Alors, le Père Faber va un petit peu adoucir ce qu'a de presque scandaleux cette affirmation. Dieu nous demande d'une manière explicite la prière d'intercession. Et là, on voit que l'apôtre du Père Faber n'est jamais très très loin de l'apôtre Saint Paul, et il va terminer avec la citation de la première à Timothée. « Je désire avant tout que les hommes adressent leurs supplications, leurs prières, leurs intercessions et leurs actions de grâce. » Le Seigneur nous demande de prier aussi pour les autres. Mais nous pouvons terminer sur ce aussi qui vient peut-être mettre en question nos manières de faire, nos habitudes. S'il y a ce aussi pour les autres, c'est que vraiment, il y a une très très grande recommandation à se mettre en prière pour demander l'invasion de Dieu en nous. L'invasion de la grâce, l'invasion de la lumière et l'invasion de la charité divine. Nous pouvons prier Saint Matthieu, puisque nous sommes le 21 septembre, prier Saint Matthieu avec la fougue de sa conversion, Saint Matthieu avec son passage des intérêts économiques aux intérêts de Jésus, prier Saint Matthieu de nous aider à comprendre à quel point c'est dans cette grâce de la prière, dans cette grâce de cette prière en Dieu et avec Dieu, que nous pourrons servir au mieux les intérêts du Seigneur Jésus.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Père Nicolas.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.